plan, boss.
Me dis pas que t'es inquiet.
Salut, c'est Soundtrack.
L'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma.
C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance.
Ah, ça c'est pour de la mobilité. C'est Moby qu'on a en fond sonore.
Oui.
Bonsoir mon cher Jérôme.
Bonsoir Yves.
Oh là là, mobilité, ça ferait presque croire qu'on va bientôt se barrer.
Oui. Ça serait pas les... Comment on appelle ça déjà? C'est après le boulot...
Ça commence pas par un V ou par un C?
Oui, c'est... ça c'est le deuxième bureau.
Ouais.
Pas le premier parce que c'est le bureau présidentiel. Ça,
d'accord.
C'est... Mais ça c'est une vanne à moi de... c'est pour l'assassin.
C'est de la private joke qui nous expliquera peut-être un jour, mais c'est pas grave.
Non, c'est dans les rediffs, ça existe déjà.
D'accord. Ça va mon petit Jérôme?
Ouais.
Bon, on est le deuxième vendredi du mois, donc comme tous les deuxièmes vendredis du mois, qu'est-ce qui se passe?
Bah là, ça sent la fin de saison, mon lapin.
Ouais, déjà, parce que c'est vrai qu'on est au mois de juin.
Et si c'est la fin de saison, moi j'ai un truc mémotechnique, c'est qu'on approche des...
Vacances.
Bravo Yves.
Et donc un soundtrack spécial vacances.
Oui, parce que c'est une idée de Yves.
Ou du moins...
simple.
Film.
Oui, de vacances et de musique.
Soit de vacances, soit qui se passe... Qui ont, on va dire, les vacances en fond... De scénario.
Oui, parce que si vous vouliez une émission sur les vacances de Yves, il a tellement d'émissions que je le soupçonne d'avoir déjà un truc, ou alors d'en mettre des bouts dedans. Mais il va pas nous l'expliquer.
Je bosse déjà sur mes émissions de 2030, moi.
Je savais que j'avais ouvert la boîte de Pandore. Je le savais. Bonsoir, bonjour, on ne sait pas. Spécial vacances. Picorons ensemble, mon cher Yves, dans ce vaste sujet et parlons musique aussi, évidemment.
Oui, on est un peu là pour ça.
Bah oui. Et ce soir, justement, vacances, soleil et catastrophe.
Ah.
J'ai envie de dire les vacances, quoi.
C'est, on pouvait pas le faire, on va dire, en version détendue et comédie. Si, quand même.
Bah, j'ai pas de film où ça se passe bien parce que par définition, c'est chiant.
Films de vacances. Ouais, c'est vrai que les films de vacances que tu montes.
Ah, ou alors tu vas voir un Toledano. Hein, il est toujours à l'affiche. Hein, nos années, le truc sur les années 80-90.
Oui.
Il est très très bien, mais c'est une tranche de vie.
Mm.
Et même là, il y a des petits rebondissements. C'est très très bien. Si vous n'avez pas été le voir, vous débranchez le cerveau et vous retournez dans les années 80-90. C'est très très bien. Mais tout va bien. Hein.
Oui.
Tout va bien. Hein. C'est pas un film d'horreur. Là, on va traiter ça comme d'habitude à notre sauce.
Voilà. Surtout à la tienne.
Oui, là pour le coup, oui.
Ça fait du bien.
Je sais pas comment l'interpréter ça, mais on va passer à autre chose. Titre, voilà, ça c'est fait.
Titre, voilà.
Bon, alors, vacances, soleil, catastrophe, parce qu'entre les plages paradisiaques, les villages de vacances, les trains qui traversent l'Inde ou les stations balnéaires françaises, les personnages de nos films ont une capacité remarquable à transformer un séjour de rêve en désastre affectif. Et pas que. Voilà.
Oui.
Aujourd'hui, autant de films que de manières de foirer complètement ses congés.
Bienvenue sur Paradis Torin.
Ah bah oui, prenez note, hein. Ouais. Différent,
et puis il y a Yves. Et normalement beaucoup de musique, parce que une dépression tropicale passe toujours mieux avec un bon thème orchestral.
C'est ça. Et justement, on entendait Moby grâce au truchement de ce magnifique jeu de mots de Yves.
Oui.
Non, rajoutez pas, sinon on n'a plus le temps.
Non, c'est bon.
C'est la plage.
Ah, on va magnifique. Déjà à la plage. C'est
vrai
qu'il fait beau sur Boulogne.
On y est déjà. Donc, DiCaprio, Guillaume Canet et comment s'appelle la dame?
Ah, Virginie Le Doyen.
Voilà.
C'est vrai que ça, c'est une belle composition quand
oui,
même.
Tiré d'un roman en anglais magnifique aussi. Mmh. Et c'est un Danny Boyle.
Oui.
C'est déjà pas rien. Mmh.
Voilà. En l'an 2000
oui.
Ça fait mal quand même. Quand parfois on se dit.
Ouais, mais c'est un film qui n'a pas pris une ride en fait.
Oui. Le film n'a pas pris une ride.
Par contre, DiCaprio, il a pris cher. Tu regardes Inception derrière, tu dis. Ah, bah Jack, t'as pris une porte. Pardon, c'est pour moi aussi, ça. C'est un autre film, c'est un autre truc.
Merci.
Mais bon, allez, on s'écoute. Pure Shore.
Tu veux un petit peu de musique? Allez, on remonte le son.
Ah, ça fait du bien.
C'est frais, c'est léger. C'est vrai que ça donne cette petite sensation de vacances, d'être à la plage, justement.
Bah, c'est ce genre de film qui te plonge tout de suite dedans. Moi, j'ai besoin de ça dans les romans. Si au bout de 10 pages, j'arrive pas à me projeter, Là, c'est pareil. C'est un film qui te prend par la main et on découvre. On découvre un film dramatique britannico-américain, donc par Danny Boyle, en 2000, comme tu dis, et on vient de prendre une claque derrière les oreilles, on n'est pas les seuls, il n'y a pas de raison. C'est une adaptation du roman d'Alex Garland de 96. Mmh. On est en Thaïlande, un jeune américain, Richard, Leonardo DiCaprio, apprend l'existence dans une île au large des côtes d'un Éden où vit une petite communauté. Il s'y rend avec deux Français, Françoise, jouée par Virginie Ledoyen, et Étienne Guillaume Canet. Alors ça, c'est la version courte. Ça va pas se passer comme ça aussi simple. Ça, faut pas déconner. Non.
Oui.
Donc le film est plutôt mal accueilli par la critique, mais comme souvent, il s'en sort remarquablement bien sur le plan commercial.
Il y a quand même déjà, on va dire,
des bons comédiens,
un bon réalisateur.
Ouais, c'est ça.
Donc, Et le côté vacances, justement, on en dit.
Ouais, mais c'est pas les sous-doués. Voilà. On n'est pas sur un truc qui est fédérateur d'entrée de jeu. On est sur un truc qui pose des questions.
Ouais.
C'est peut-être déjà ça. Mmh. Mais bon. Alors allons-y. Richard, jeune américain. Petit synopsis. Hein, je m'a trop dit moi-même, si vous me permettez.
Il n'y a plus besoin, on va dire.
Si je puis me permettre, c'est autre chose. Jeune américain en quête d'aventure débarque à Bangkok avec l'énergie d'un influenceur voyage avant l'invention d'Instagram. J'aime beaucoup cette ref.
Oui.
On est pas mal.
Oui, parce qu'on est en
2000. Dans une auberge miteuse, il rencontre un étrange marginal qui jouait par un magnifique acteur aussi, qui lui remet une carte indiquant l'emplacement d'une île secrète, une plage paradisiaque, invisible sur les cartes, épargnée par le tourisme. Enfin, je sais pas pourquoi, moi, je suis en train déjà de me dire, il y a un truc qui va puer quelque part. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Bref, un concept qui ne peut absolument pas mal tourner. Ah mince. Zut, je l'avais déjà écrit. Ça.
Mais c'est pas un film d'horreur.
Voilà. Non, 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 pas du tout. Voilà. Mais il y a des scènes bien.
Non, parce que parfois, justement, quand on commence un synopsis comme ça, on dit, c'est bon, ça va être massacre sur l'île paradisiaque.
Il manque la blonde à grosse intelligence et on est pas mal.
Et la main qui court sur la plage.
C'est ça. Voilà. Mais là, c'est un autre film aussi. Et donc le couple français, François, Étienne et Richard, rejoint l'île. Ils découvrent la fameuse communauté qui vit en autarcie. En autarcie. Alors ça, c'est pareil. Allez revoir le film, vous verrez leur définition de l'autarcie.
Oui.
Le lieu ressemble à un catalogue de voyage, l'eau est turquoise, le sable parfait, les habitants sont beaux.
Oui, il suit
pas pourtant. Visiblement. Visiblement. Voilà. Oui. Mais la nature humaine, bref.
Oui.
C'est immédiatement suspect. Oui. On dirait que c'est moi qui ai écrit le truc, dis donc. Sous la direction de Saul, le groupe vit selon des règles strictes.
Ah, ouais, oui, ouais, ouais, finalement.
Ouais. L'équilibre est fragile, voilà. La paranoïa s'installe, les conflits éclatent, les secrets émergent. Et ouais, ça pouvait pas durer. Richard sombre progressivement dans l'obsession et la paranoïa.
Oui.
Ça donne une scène totalement lunaire de jeu vidéo avec une musique sous acide. C'est juste magnifique. Mais allez voir. Le paradis devient prison, la communauté se délite, la violence remplace l'utopie. Mais alors la violence. C'est si beau et à la fin, ça mais grave.
Oui. Au final, c'est presque un film d'horreur, plage, on va dire.
Ouais. Oh oui, il y a un moment, il y a des moments. L'île révèle ce qu'elle était depuis le début, un mirage vendu comme un rêve. Donc voilà. Et en termes d'anecdotes, bah justement, on est en Thaïlande et le film a provoqué une légère polémique parce que c'est quand même une grosse usine, c'est un gros budget. Et pour un truc qui est censé défendre quand même une île paradisiaque, le côté vert, retour à la nature, bah ça a juste été une catastrophe environnementale de pollution, de machin, de trucs et compagnie.
Oui, mais
donc en termes de com, ils ont nettoyé la plage et deux semaines après, bah y avait autant de pollution qui était revenue.
Bon, ouais.
Voilà. Mais pour la com, c'était fait. Le film marque l'association entre Danny Boyle et Alex Garland avant 28 jours plus tard.
Ouais.
Leonardo DiCaprio venait du succès colossal de Titanic. Évidemment, ça pose une carrière d'acteur. Et à l'origine, c'est ça qui est marrant, ça devait être Ewan McGregor.
Ah ouais ?
Ouais, acteur fétiche de Danny Boyle qui devait incarner le rôle de Richard. Cependant, les producteurs auraient accepté d'augmenter le budget accordé à Danny Boyle. Bah ouais, c'est pas DiCaprio qui vient de poser le Titanic. C'est Ewan McGregor. Bon. Si l'on engageait DiCaprio, voilà, bon. Ce qui fait que pendant 15 ans, Ewan McGregor et Danny Boyle n'ont plus du tout tourné ensemble. Néanmoins, ils se retrouvent en 2016 pour la suite de...
The Trainspotting.
Yes, I love your English accent, hein, une fois encore.
Je l'ai bien foiré exprès.
Ah bah, of course, mais oui.
Of course.
Allez, parlez-moi. Bah justement, tiens, tu me demandais, mon cher Ivo, antenne, c'est All Saints.
Oui, c'est bien les All Saints, voilà, qui chantaient tout à l'heure Pure Shores, la chanson toute légère. Mais dedans, et aussi, bah, donc, Moby avec Porcelaine.
Ouais.
On a de la Britpop avec Latfield qui chante Snake Blood. Et également Sugar Ray pour un côté un peu plus énervé avec Spinning Away. Le côté Asian Dub Foundation aussi, excellent comme musique avec Return of Dango. Et bah, Old Britpop avec Blur. On a également Yeke Yeke en version remixée.
Et c'est très bon,
de
c'est très
Kante.
Très bon.
Déjà la version originale est excellente.
Bah, c'est vrai, mais là, que le cette version-là est très bon, il se pose là. Ouais.
On retrouve aussi les anciens de New Order avec Brutal.
Oui.
Ça fait pas mal comme nom par rapport à New Order.
Non, on sent que le film a légèrement déjà basculé en mode trash, là.
Et on a aussi quand même Orbital, The Chemical Brothers, Uncle. Voilà, des noms aussi dans la partie électronique. Il y a une musique électronique dedans.
Et Out of Control, justement, c'est le moment de paranoïa jeu vidéo de Richard, où là, on est dans sa tête. Et là, ça vire au jeu de massacre. Mais c'est vraiment Doom. C'est vraiment Doom. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est des vrais humains qui... Enfin, bref. Et la bande originale, en effet, mélange, comme tu le disais, électronique, ambient, trip-hop
et
rock alternatif. Ouais. Donc, c'est top. C'est top, ça passe bien. Et ça dénote bien l'évolution du film.
Et la musique, quand même, de film, on a un très grand dont on a déjà un petit peu parlé, mais pas encore assez.
Oui, je trouve.
Ouais.
Oui. Angelo Badalamenti. Oui. Compositeur fétiche de David Lynch, c'est pour ça qu'on en a parlé. Aussi l'auteur des musiques de justement Blue Velvet, Twin Peaks et Mulholland Drive, hein, c'est signé. Il est d'ailleurs Luigi Castiglione dans Mulholland Drive. Il joue aussi des petits rôles. Il ne fait pas que ça. Et un pianiste dans Blue Velvet, ainsi que dans la série télévisée Twin Peaks. D'ailleurs, il a travaillé également avec Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet.
Ouais, des Français de service.
Voilà, c'est ça. Et musique, pour la plage, sa musique apporte une mélancolie étrange sous les cocotiers.
Ouais.
Tout à fait.
Et
justement...
Quand on est sous les cocotiers, qu'on est à la plage, parfois, qu'est-ce qu'on se dit ?
On dirait qu'on est en train de jouer à Dessiner, c'est gagner, là.
On n'aurait pas envie d'écouter une petite musique des garçons à la plage ?
Allez.
En sirotant un cocktail ?
Garçon.
Allez. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo.
Un petit cocktail, monsieur, un petit cocktail. Cocktail, film américain sorti en 88 aux États-Unis, en 89 en France. Avec des grosses, grosses, grosses critiques négatives, mais on s'en fout parce que, comme d'habitude, le film a connu un énorme succès commercial. Et quand on écoute la bande-son, on en parlait justement avec Yves, justement, ça n'a pas relancé Tom Cruise, qui n'attendait pas que ça. Ça a relancé qui, mon chéri?
Là, par exemple, justement, en fond sonore, ce sont les Beach Boys avec le titre Kokomo.
Et gros justement, gros carton.
Ce titre-là a été la relance, la remise en avant des Garçons de la Plage, parce que le groupe avait eu un succès phénoménal dans les années 60, avec, on va dire, une petite guéguerre entre l'Angleterre et... les États-Unis avec les Beatles et les Beach Boys pour savoir qui était le meilleur groupe de pop rock. Sauf que, à un moment, Brian Wilson, le leader, avait eu un gros coup moral parce que il avait entendu une chanson des Beatles. Il a dit je ne ferai jamais mieux que ça parce que il trouvait que la chanson She's Leaving Home que Paul McCartney était venu lui interpréter chez lui, qui allait être sur Sgt. Pepper.
C'est
il a
sympa.
Compris que
le mec t'apporte ta dépression chez toi.
Et
c'est sympa.
Il devait bosser sur l'album Smiles, le meilleur album de tous les temps.
Compliqué.
Ça lui a miné le moral. Il a fait une dépression. Il s'est enfermé chez lui. Plus personne ne le voyait. Il n'arrivait plus à composer. ça a mis le temps pour revenir. Et bah voilà, 1988, ouais. Le film Cocktail, la chanson Kokomo qui reprend, on va dire, tous les gimmicks justement de la surf music.
C'est ça.
Que faisaient d'abord les Beach Boys. Bah voilà, c'est
avec un clip qui reprend justement aussi les images du film. En même temps, on voit les Beach Boys. Et c'est très très bien fait sur l'idée. Et c'est ce que nous ramenaient à l'époque les clips vraiment vidéo. Il y avait un plus et ça on faisait le parallèle entre le film et qu'aujourd'hui c'est plus compliqué.
Bah, c'est vrai que pour les musiques qui servaient au niveau de film, on prenait les images du film en plus des images des musiciens, on mélangeait les deux et bah, ça faisait
une troisième entité.
C'est ça.
Et l'un surfait sur l'autre et l'autre surfait sur l'un. Excusez-moi pour ce jeu de mots un peu foireux, mais voilà.
Et il y a plein d'autres chansons géniales, on en parlera tout à l'heure. Mais on va peut-être parler d'abord de qui est dans le film et qui a fait le film.
Donc Tom Cruise, Brian Brown, Elizabeth Shue, Gina Gerson, Eliza Bain. Et ce qui est rigolo, c'est que... on parle de Tom Cruise, mais qui était pressenti? Robin Williams avait été approché, Jim Carrey, Charlie Sheen, Keanu Reeves, John Travolta, Rob Lowe, Bill Murray et Jeff Bridges sont envisagés pour le rôle de Brian Flanagan.
Que des grands noms.
Attends, c'est pas fini. Ouais. Tom Hanks y sera un temps attaché avant de décliner. C'est-à-dire, lui, il est passé un cran au-dessus, pépère. Et pour le rôle féminin de Jordan Mooney, j'arrive pas à le dire. Oui. De nombreuses actrices sont envisagées. Jennifer Grey, Molly Ringwald, Demi Moore, excusez-moi, Jodie Foster, ça se met bien. Daryl Hannah, Sarah Jessica Parker, on est pas mal, Heather Graham, tout ça.
Jennifer ou encore Jason Knight,
L'actrice et mannequin française Estelle Lefébure.
Oui.
On prend pas Maïté. Hein, oui. Excusez-moi, mais je. Enfin voilà.
Mais en même temps, justement.
On a besoin.
On est dans le concept, on est sur la plage, donc il y a tout le concept. Comme précédemment à la plage, où on imagine justement les jolies filles, les beaux surfeurs.
Oui.
Le mec au bar qui doit être quand même canon pour que ça aille dans la crédibilité également.
Littéralement, là, on est carrément là-dessus. Le scénario tient sur un demi-format 4, parce que quand même, il y a une histoire, mais c'est léger. c'est très light. Et le rôle revient à Elizabeth Shue, donc comme je le disais.
Ouais.
Alors,
un petit synopsis pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle.
Merci, mon cher Jérôme. À vous, Cognac G. Brian Flanagan, jeune ancien soldat qui arrive à New York avec de grandes ambitions. Rêve de faire carrière dans le monde des affaires et de devenir riche. Rêve américain dans les bouquins, mais il prend une gamelle dans la tête.
On est quand même encore dans les années 80.
On est dedans. Malgré ses efforts, il ne parvient pas à trouver un emploi à la hauteur de ses attentes. Pour gagner sa vie, il accepte un poste de barman dans un bar très fréquenté et rencontre donc Doug Coughlin, un barman talentueux, excentrique et plein d'assurance. Trop peut-être. Doug lui enseigne les secrets du métier et les techniques spectaculaires de service. Et grâce à cet apprentissage, Brian devient rapidement un excellent barman. Les deux hommes attirent les clients avec leur numéro impressionnant derrière le comptoir. Brian commence cependant à envier le succès et la popularité de son mentor.
C'est toujours un peu compliqué.
Humains. Leur relation se détériore progressivement à cause de la compétition et de l'ambition. On en parlait.
Qui n'a jamais cherché à se mesurer, on va dire.
Il a tué le père. Voilà, c'est ça. Et après plusieurs déceptions professionnelles, Brian quitte New York, s'installe en Jamaïque pour travailler dans un bar situé près de la plage, Kokomo, on est bien.
Profiter.
Changement de vie qui permet de lui découvrir un environnement plus simple et détendu. Il rencontre Jordan Mooney, une jeune femme indépendante, tombe amoureux, envisage un avenir différent. Toutefois, son désir de réussite financière continue de le... c'est toujours là. Il y a toujours son bouquin « Devenir riche en 5 minutes ».
Oui.
On est bien. Et ça reste un running gag dans tout le film où il se fait prendre à chaque coup par son mentor qui lui dit « Je suis sûr que t'as un bouquin planqué derrière le bar. » Et ça fonctionne. Bon. Toutefois... les difficultés qu'il traverse lui font prendre conscience de ses erreurs. Pendant ce temps, Doug connaît une évolution tragique qui marque profondément Brian. C'est-à-dire, Doug, il a un karma qui monte en flèche, mais quand ça monte trop, derrière, ça se casse la figure. Il rencontre la fille rêvée, belle, riche, intelligente. Trop peut-être.
Ouais.
Riche. Et il bouffe le pognon.
Ah.
Il ouvre ce qu'il voudrait rêver, mais il ouvre ça avec un point de vue de barman. Sauf que là, on est dans le monde des requins, des affaires, et il bouffe le bas de laine.
Tout à fait.
Et ça se finit mal. Ah. Brian comprend finalement que l'amour et l'épanouissement personnel valent plus que la richesse. Le film se termine sur sa transformation et sa volonté de construire une vie plus équilibrée avec Jordan. Ce film, réalisé par Roger Donaldson, met en vedette donc Tom Cruise et mêle romance, comédie dramatique et réflexion sur la réussite personnelle. Pour le coup,
oui.
Trois en un, on est pas mal.
Et Roger Donaldson, c'est pas non plus le premier venu.
Non, on est ouais. D'accord. Tout à fait d'accord. Et le film a été massacré par la critique et est devenu culte grâce au public. Grand classique à l'époque, et toujours aujourd'hui. Et pour les besoins du film, Tom Cruise est entraîné au flair bartending par John Bondy, qui n'est pas un inconnu apparemment, et effectue lui-même une partie des manipulations de bouteilles. C'est bien Tom Cruise. Hein.
On sait que c'est Tom Cruise, il aime faire en vrai, il a pris de trucage, même pour les cascades et compagnie. Donc, pour ça, c'est pareil.
Dans le dernier Top Gun, il a pris, une semaine de cours de danse pour 5 secondes d'image.
Ouais.
C'est-à-dire, le type est obsessionnel, on le sait.
Hein, oui.
Mais ça le rend imbuvable aussi. Mais bon. Et le scénario s'inspire du roman Cocktail de Haywood Gould, publié en 84. Le roman est lui-même basé sur la propre expérience de l'auteur, barman, de 69 à 81, en plus de son travail d'écrivain. Oui, puisque ça nourrit. Voilà. Et Ewan Gould signe lui-même l'adaptation du scénario. Alors, il en écrira juste 40 versions pour avoir la bonne. Mais bon, pour le coup, on est pas mal. Tu nous parles de la musique, mon cher Yves ?
C'est un certain John Peter Robinson, claviériste et compositeur de musique de film qui s'y colle.
Qui a étudié le piano et la composition classique à la Royal Academy of Music de Londres avant de connaître une brillante carrière de musicien. Accompagnant entre autres
Sean Phillips sur disque et en tournée, et également reconnu comme musicien de studio. Il a quand même joué avec Brent Hicks, Phil Collins, quand même.
Ça va.
Frida, Mike Rutherford, qui vient comme Phil Collins de Genesis.
Oui.
Carly Simon, et on a pu l'entendre sur la version originale de l'œuvre de Tim Rice et Andrew Lloyd Webber. Jésus-Christ Superstar. Avec quand même Ian Gillan, Murray Head, Yvonne Elliman, Carl Jenkins et John Marshall. Et on retrouvera ces deux derniers musiciens au sein de Soft Machine. Donc, il s'y connaît en musique, il est bien entouré également.
Et au niveau des titres, justement, c'est ce que tu nous
la
disais.
La bande originale, elle est remplie
avec le succès, c'est rempli de tube sur tube.
En fond sonore, tout à l'heure, on a entendu le Bobby McFerrin qui nous chantait le Don't Worry Be Happy.
Oui.
Ça fait près de 40 ans qu'on entend cette chanson et elle est toujours aussi efficace.
On a eu Hippie Hippie Shake, évidemment, dans un film parlant de bar.
Ouais,
on est pas mal.
C'est ça. Et on a également Robin Neville avec Since When. C'est un gros succès. Succès pour Robin Neville à l'époque. On a John Cougar Mellencamp, on a Ray Cooder, on a Little Richard avec Tutti Frutti. Bah oui, en même temps, il y a le côté rock'n'roll à l'époque.
Dans ce film, ce film évoque encore toute le bonheur de le fusible, on va dire. C'est on va au bar, on se met la tête à l'envers.
Oui.
C'est ce que me disait ma tendre moitié qui me disait j'adore ce film justement pour ça. Mais moi, je pense que j'ai le même principe avec la plage.
Ouais.
C'est t'y vas, le film te prend la main et t'emmène, c'est beau, c'est machin, mais on pose des questions et on y va gentiment. Et c'est un film justement qui nous ramène dans les bonnes années, dira-t-on.
C'est ça.
Dans les années où...
Il y a un peu d'insouciance.
J'allais le dire.
Voilà. C'est vrai que les années 80, quand beaucoup les ont vécues et s'en rappellent maintenant, 40 ans plus tard, par rapport à la vie qu'on a, on a vieilli, on a une vision différente
de
la vie.
Les problématiques ont changé,
Il y avait des problèmes dans les années 80, c'était tendu également, mais il y avait ce côté festif, coloré, qui permettait de pétiller plus facilement.
Plus simplement. Mais allez vraiment voir le film de Toledano, parce qu'on lui fait de la pub depuis tout à l'heure, là. C'est vraiment ça, pour le coup. Voilà.
Bon, et
on en a fini.
Oui, on va dire qu'on en a fini.
Avec modération.
Et comment on est allé à la plage pour aller prendre un cocktail sur la plage.
On va rentrer. On rentre à bord du Darjeeling Limited en 2007.
Je vais remettre la musique qui était prévue, qu'on a eu en fond sonore.
Tomorrow.
Allez. Le temps, c'est maintenant en réalité.
Oh,
Allez, c'est pas bien de couper des chansons, mais on a quelques petites choses à raconter.
Oui,
du train qui nous emmène en Inde.
À bord du Darjeeling Limited en 2007, donc film américain réalisé par Wes Anderson. Et Wes Anderson, il a un univers, on le sait.
C'est un personnage et voilà, ses univers sont toujours très bigarrés.
Oui, tout à fait. Cinquième long métrage du réalisateur qui raconte l'histoire de trois frères américains, Francis, Peter et Jack, toujours un Jack,
ouais,
qui font un long voyage en train à bord à travers le nord de l'Inde un an après la mort de leur père. Mm. Toujours un événement triste,
oui,
pour eux. C'est un grand classique et ça fonctionne.
Ouais.
Leur périple est parsemé d'incidents loufoques et égayés de rencontres inattendues.
C'est ça qui est bien aussi.
Oui, c'est ça. Planifié comme une initiation spirituelle, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui essaie de planifier le truc, ce parcours est une occasion de ressouder la fratrie et doit aussi les mener à leur mère, cloîtrée dans un couvent himalayen.
Ouais. Voilà.
Alors ça, c'est sur le papier. Ça, c'est sur le papier. À la distribution, on a qui, mon chéri ?
On a quand même Owen Wilson,
ouais,
Adrien Brody, Jason Schwartzman,
wow,
et dans le rôle de la mère, Angelica Houston.
Ouais.
Voilà,
ouais,
on a quand même un très beau trio pour les frangins et une mère, bah, voilà, qui n'a pas envie d'avoir Angelica Houston comme mère au cinéma.
Oui, on est bien d'accord. Et Owen Wilson connaissait Wes Anderson aussi. D'ailleurs, ils se sont retrouvés potes de fac,
ouais,
potes, ils ont tourné des courts-métrages et compagnie. Donc c'est quand même un film de potes.
Et le film est de 2007, pour, je sais plus si on l'a dit ou pas, donc ça fait déjà bientôt 20 ans que ce film a,
oui,
mais il est devenu intemporel également.
Ah oui, tout à fait, tout à fait, c'est vraiment un film iconique.
Ouais.
Et donc, justement, parlons-en de cette icône. Trois frères, nous le disions, un mort, un train, une quantité préoccupante de bagages émotionnels.
Ouais.
Francis organise un voyage spirituel à travers l'Inde. Ses frères n'ont rien demandé, le deuil est omniprésent, les rancœurs remontent, les disputes éclatent.
Oui,
les révélations surgissent, les valises deviennent un symbole. Comme chez Wes Anderson, tout est parfaitement cadré. Même les névroses, c'est vraiment ça. Après une série d'incidents, les frères commencent enfin à se parler sincèrement. Ce qui constitue l'événement le plus improbable du film, je vous engage honnêtement à aller voir.
Un film de famille qui, justement, permet à tout le monde aussi de se projeter. On a tous vécu quelque chose qui fait qu'on a des rancœurs envers certains et on préfère soi-disant d'autres. Mais une fois qu'on se parle à cœur ouvert, pourquoi on s'est engueulé avant ou des trucs comme ça. Et c'est le genre de film qui permet, on va dire, si on va le voir en famille, de peut-être se dire, faudrait peut-être que je parle un peu plus avec les autres et de ne pas rester sur des rancœurs de conneries.
Oui, et on vous engage aussi, parce que moi je l'ai vu récemment, à aller voir Le Grand Hôtel aussi, avec Ralph Fiennes, Budapest, je crois. Un Wes Anderson encore meilleur qui... Allez voir, allez voir, c'est magnifique,
voilà,
le
c'est
cadre
Wes Anderson.
Est superbe et c'est vraiment du Wes Anderson comme on aime. C'est un Tim Burton différemment, il a son univers et on écoute justement sa musique, et sa musique ça n'est pas rien chez Wes Anderson. Wes Anderson, c'est ce que j'expliquais à Yves tout à l'heure, n'a pas de bande originale où on va picorer, voilà. Il n'a pas de score où on fait venir une sommité, un Hans Zimmer pour faire, non. Lui, il a un superviseur musical. C'est quoi donc cette bête-là ?
C'est un gars qui va aller chercher les musiques qui sont adéquates pour le film.
Et voilà. Et Wes Anderson, petite particularité, c'est que dès qu'il a un morceau, il construit le film autour.
C'est ça qui est impressionnant.
Voilà. Et évidemment, la musique prend toute sa saveur. Elle est pas, c'est pas un détail. C'est indissociable des images et on le sent tout à fait. Et justement, ce collaborateur avec lequel il a travaillé de longue date sur Skyfall, sur Le Loup de Wall Street, Le Grand Budapest Hotel dont je parlais, et le The Irishman, ainsi que sur la série télévisée Vinyl. C'est
Randall Poster.
Voilà. Et c'est un gars qui, je ne sais pas à quoi il se prédestinait. Depuis, le type, on est aux États-Unis, il fait ça pour la pub, les autres films, il fait ça pour tout le monde. C'est un peu le gars qui vous caste la musique. Mais c'est un peu le luxe. C'est voilà, je voudrais faire un film, j'ai pas trop d'idées, le gars vous trouve les musiques. Donc là, ça c'est pour Wes Anderson. Et ensuite, vous partez, vous n'avez déjà pas rien et vous pouvez construire dessus. Et le gars est doué.
C'est un concept intéressant.
C'est une autre manière d'envisager le cinéma et je trouve l'idée vachement intéressante.
Et pour parler un petit peu justement des musiques, on vous a passé tout à l'heure This Time Tomorrow, c'est le groupe The Kinks. Oui. On parlait tout à l'heure des Beach Boys et des Beatles qui ont eu du gros succès dans les années 60. The Kinks font en partie également de cette vague des années 60 de gros succès et de se dire mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans dans un voyage en Inde. On s'attendrait plus à avoir des musiques hindoues.
Alors il y en a.
Il y en a, bien sûr.
Mais bien qu'il n'y ait pas que.
Mais c'est bien trouvé d'aller chercher des groupes dont on n'attend pas forcément la présence, justement, dans la bande originale.
Oui, en même temps, c'est pas révolutionnaire. Je veux dire, c'est pas sur des trucs très, 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 très polarisés comme la plage. Mmh. On est sur quelque chose. Tu vois, on a de l'accordéon.
Oui.
On est sur quelque chose un peu. C'est pas dramatique, mais c'est légèrement. Ouais. On est dans l'ambiance. On prend le train, gentiment. Il se passe des choses. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique justement hindoue dedans également.
Oui.
Et la musique qu'on avait là en fond sonore, Where Do You Go To My Lovely, c'est Peter Sarset, que je ne connais pas.
Ah.
Mais très sympa comme musique. Et donc, c'est ça aussi un superviseur musical qui veut aller chercher des artistes qui sont inconnus, mais qui collent. Ça veut dire qu'il a une très très grande culture musicale en conséquence.
Grosse culture, très très grosse.
Et... Bon. On va dire en parlant musique, on a quand même les Champs-Élysées de Joe Dassin à la fin.
Oui,
c'est
oui.
ça aussi.
Oui.
C'est de se dire parfois, il est anglais ou il est américain, il va aller chercher que dans les musiques qu'il connaît, mais de langue anglaise. Mais non, Joe Dassin, les Champs-Élysées, c'est dedans. Donc faut aller voir ce film-là pour entendre justement Joe Dassin.
Allez voir la filmo de Wes Anderson.
Ouais.
Oui, vraiment, vraiment. Et c'est ce que je disais, il prend une musique et il construit autour, vraiment, il adopte la chanson.
C'est ça.
Et il fait un décor symétrique autour. Mmh. Et il utilise, tu disais, The Kinks. Et donc là, c'est ce qu'on entend, des extraits composés. Parce que, alors là, ça Satyajit Ray.
Oui.
C'est bon, je l'ai.
Ouais, lui, il est indien.
Lui, il n'est pas de ce mur en vallon.
Ouais.
Non, ça, j'en doute, mon pauvre lapin.
Et
Wes.
Wes Anderson, on va quand même un petit peu en parler. Ouais, on est en train de lui faire les godasses depuis tout à l'heure.
Oui.
Il est quand même réalisateur, scénariste, producteur, acteur américain.
Oui.
Il a débuté en 96 avec Bottle Rocket, co-écrit avec Owen Wilson. Comme tu disais, ils sont potes
De fac.
De promo. Et il se fait rapidement connaître grâce à Rumshore en 98 et à la famille Tenenbaum en 2001. Ce dernier lui volant sa première nomination à l'Oscar du meilleur scénario original.
Puis
il y a eu La Vie Aquatique en 2004, Fantastic Mr. Fox, pareil, un univers très très bigarré en 2009, Moonrise Kingdom qui est une pépite. J'adore ce film en 2012. The Grand Budapest Hotel dont tu as parlé en 2014 qui a remporté 4 Oscars.
Donc ça veut quand même dire que c'est juste magique, le mec il sait y faire. C'est beau. C'est un magnifique film qui est pas triste, mais il est. Voilà, allez le voir. Ça, c'est pas évident à raconter.
Et c'est pas toujours évident de rentrer dans l'univers de Wes Anderson.
Non, mais justement.
Moi, il y a certains films, je suis pas rentré dedans ou j'ai pas trouvé ça formidable, mais d'autres, comme je te disais, Moonrise Kingdom.
Oui.
Ah, mais je suis tombé amoureux de ce film tellement Bill Murray, déconnecté.
Déjà,
les petits jeunes qui tombent amoureux, qui découvrent la ville, tous des petits détails, des trucs comme ça, tu te dis. C'est frais.
Mais il a un maître à penser, Wes Anderson, mon chéri. Et justement, il a été fortement influencé par un certain Jacques Tati. Et là, on comprend mieux la nouvelle vague française, l'esthétique des années 60-70, les films peuplés de personnages excentriques et explorant les thèmes comme la famille, la nostalgie et le passage.
À l'âge adulte.
Oui, voilà. C'est des petits détails dans d'autres films où on roule dessus. Lui, il prend ça et il le magnifie. Alors, on n'aime pas, on rentre dans les personnages ou pas. Mais ça c'est intéressant. Et comme tu le disais, c'est bien à regarder en famille.
Et on est à la croisée entre comédie dramatique et conte surréaliste.
Oui.
Et
c'est une excellente. Non, il va me flinguer mon truc. C'est une excellente transition, mon cher Yves, avec le film qui suit, mon cher Jérôme. Oui, c'est moi. J'étais au courant. Moi qui ai écrit le script. Alors, préparez vos mouchoirs.
Non, ça ne va pas être si triste que ça, mais préparez-les quand même.
Oui. Allons-y. Thank you.
pourquoi on prépare nos mouchoirs ? Parce qu'on vient de courir à cause de la poursuite qu'on vient de, d'écouter tranquillement.
Oui, et hein, parce que c'est Bertrand Blier. On est en 78 et on reprend le duo star des...
Valseuses !
Voilà, c'est
donc,
qui ?
Depardieu, Devers.
Voilà, et là, cette fois, c'est pas Miu Miu, elle est séparée de Devers. Hein, ouais. Devers, c'est... Enfin, bon, compliqué le personnage. C'est Carole Laure qui s'y colle.
Ouais.
Pour le meilleur.
Et on a quand même un film qui obtient l'Oscar du meilleur film étranger.
Oui.
Et
oui,
le César de la meilleure musique originale pour Georges Delerue.
Et on en parle après. Ce film bénéficie des estimes d'un estime de critique et totalise le score honorable de 1,3 million d'entrées en salle.
C'est
en
quand même,
salle.
C'est bien, quand même.
À l'époque, voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que, bon... Et en cette fin de décennie 70, Blier atteint le sommet de sa carrière avec, entre autres, ce film exceptionnel, second volet de la fameuse trilogie qui s'achèvera avec
Tenue de soirée.
Ah oui, ouais, c'est énorme. Là où son illustre prédécesseur avait surpris par ses aspects joyeusement paillards et libertaires...
Oh oui,
légèrement. Préparez vos mouchoirs, va jouer sur le registre de la...
Finesse.
Oui. Ah ouais. Une finesse exceptionnelle, tellement les sujets abordés sont traités avec délicatesse. Et les sujets, on va taper dans la polémique quand même.
C'est Blier dans les années 70.
C'est ça, ouais, c'est ça. L'idée, c'est de faire réfléchir. Et là, on y va.
Et on va dire, ça vient aussi des années 68, où justement, il est interdit d'interdire. Donc, ouvre la parole à tous les niveaux.
Voilà, c'est ça. Et on... pose des questions.
Voilà.
Cinématographiquement parlant. Ça passe ou ça passe pas ? Mais aujourd'hui, ça passerait plus. Toutes les critiques que j'ai lues sur ce film disent qu'aujourd'hui, ce genre de film.
Oh, tu peux plus le réaliser.
Ça serait plus possible, ça passerait plus. Et puis, de toute façon, ce genre de film au jour d'aujourd'hui, arrivé à tous les filtres financiers, machin et compagnie pour que ça passe et que ça plaise au panel ou à la ménagère de moins de 50 ans, ça ne passerait plus du tout.
Et même si tu te dis, je vais le faire de manière indépendante, j'ai le budget, trouver le distributeur, dans 3 cinémas.
Ça. Voilà.
La commission de censure va te mettre du moins 16 ou
dessus,
des trucs comme ça,
voilà, ça,
avec avertissement.
Compliqué.
Donc ça devient compliqué. Comme quoi, la liberté de parole, c'est compliqué à accepter.
C'est pas évident. C'est-à-dire, comme disait Jean Coluche, on a quand même une moralité, une mentalité à son époque qui est à peu près là.
Ouais. Hein.
Je vous le mimerais bien, mais on a tous compris. Et par contre, on a des idées qui sont ailleurs.
Oui.
Il y a toujours eu cette espèce de dissonance. Et là, au cinéma, on est à la période où, justement, on approche, où on peut poser des questions.
Mmh.
Mais il n'a pas échappé au scandale. Hein. Et pour cause. Ce film est scindé en deux parties bien distinctes de durée équivalente.
Mmh.
Alors pas, c'est pas coupé au couteau,
oui,
hein, c'est pas Matrix 4, calme-toi. Hein. La première montre les efforts de Raoul et Stéphane pour tenter de rendre le sourire à Solange, dans tous les sens du terme.
Oui.
Parce que là, pour le coup, mais vraiment, c'est tendre, c'est voilà, et ça se joue dans un petit microcosme, mais vraiment. Hein. Efforts que ceux qui se révèlent tous plus vains les uns que les autres.
Ouais.
Raoul, avec son magnifique prénom, justement, on est vraiment à l'époque, hein, là pour le coup on est bien, moniteur d'auto-école, a tout pour être heureux, ou du moins aurait tout, si sa femme ne déprimait pas. Et
comme
là-dessus,
quoi,
on va faire un film.
Ouais.
Voilà. Il rencontre Stéphane un dimanche après-midi dans une brasserie et lui offre Solange.
Cadeau.
Cherchez pas,
sympa,
ses billets.
Oui.
Bonne
là, les féministes gueulent en 2006.
Ça gueulait déjà là.
Oui.
Oui. Raoul avait remarqué que, mine de rien, Stéphane reluquait sa femme tout en lisant son magazine.
Voilà.
Donc, quand même. On reste dans le côté fin du...
Oui.
Et on reste dans l'humain. Stéphane, fan de Mozart, passion exclusive qui le fait ignorer ou mépriser les autres compositeurs classiques. Ainsi, la musique de Mozart accompagne le spectateur tout au long du film, en alternance avec les compositions de Georges Delerue. Blier inaugure donc une tradition, la musique classique, en guise de fil rouge dans certains de ses films. Reprenons. Raoul et Stéphane, éperdument amoureux de Solange. Ok. Au point d'accepter sans sourciller leur présence réciproque aux côtés de la belle. Un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi, un coup c'est moi.
On va dire, là, c'est très actuel qu'on entend parler des troubles. Par
Là, c'est presque...
Il a 50 ans d'avance.
Oui, c'est ça, mais c'est Blié.
Bah, voilà.
Mais voilà, que ne ferait-il pas pour tenter de sortir Solange de la dépression dans laquelle elle s'enfonce ? Sans jeu de mots foireux.
C'est ce que j'allais dire.
Elle passe ses journées à faire le ménage, voilà, titre sur titre, à tricoter, à confectionner des bouquets de fleurs, ça lui suffit pas. Et c'est là qu'arrive la fameuse seconde partie qui démarre avec le truc en question. Raoul et Stéphane sont devenus moniteurs d'une colonie de vacances.
Pose pas la question pour savoir.
On sait pas. Ouais. On sait pas, c'est blié.
Mais on est dans les vacances, ça colle.
Ça colle. Et c'est là que Solange rencontre Christian Belœil, j'adore les noms, l'adolescent de 13 ans dont elle va s'éprendre.
Oh là.
Belœil est un surdoué en avance sur son âge, non seulement pour les études, mais aussi en matière de rapports amoureux. Il est persécuté par les autres gamins dans le dortoir de la colonie et trouve refuge dans la chambre de Solange, qui justement en a assez de dormir un coup avec Raoul, un coup avec Stéphane en alternance.
Et là, pour bien faire râler actuellement, avec les problèmes de mœurs actuellement, là, ce thème-là, ça fait sauter dans tous les sens.
Oui, et oui, clairement. Ah bah aujourd'hui, ça passerait plus.
Ah, plus du tout.
Clairement non. Voilà. Et il n'y a qu'un seul lit dans la chambre, c'est con. Bah, jusqu'ici, on le savait, hein, c'était soit l'un, soit l'autre.
Oui.
Là, voilà, bon. Et c'est bel et bien Christian qui sent le désir s'éveiller en lui et va faire des avances à une Solange de prime abord sidérée par l'audace de celui qu'elle a toujours vu comme un gamin innocent.
Bah, on va dire, il y a certains, comme on dit, c'est des ados précoces. Et donc,
On pose une question, l'amour.
Oui, c'est ça.
Alors, résumons. Raoul constate que sa femme Solange est triste, très triste, désespérément triste. Il décide de lui trouver un autre homme. Oui, bon, c'est lié. C'est le point de départ. Le triangle amoureux improbable devient une exploration des sentiments, de la solitude et du désir. Avec l'humour décalé de Bertrand Blier. Et son goût prononcé pour l'absurde.
Oui, ça marche mieux.
Ah bah là, oui. Et le film alterne entre malaise, tendresse et provocation.
Bah oui. Oui. Sinon, c'est pas intéressant.
Ah bah non. Sinon, c'est pas oublié. Jusqu'à un dénouement qui continue de diviser les spectateurs encore aujourd'hui.
Et si vous voulez le connaître, allez voir le film.
Même si
ça va vous hérisser le poil, mais au moins, c'est un film qui ne laisse pas indifférent.
Ah bah sinon, allez voir Calmos avant, ça va vous calmer. Ça, là, pour le coup, là, c'est bien. Là, faites ça. On est bien. Et donc,
à la musique, quand c'est pas du classique, c'est monsieur Georges Delerue.
Qui n'est pas une pince dans son monde, mon cher Yves. Et justement, parle-nous un peu de monsieur Delerue.
Né en 1925, décédé en 1992, un des plus grands compositeurs de musique de films français du XXe siècle, né à Roubaix, étudié au Conservatoire de Paris, avant de commencer sa carrière dans la radio, également au théâtre, à la télévision. Et à partir des années 60, il s'impose dans le cinéma français en collaborant avec les réalisateurs de la Nouvelle Vague, notamment François Truffaut, comme Gilet Jim et La Nuit Américaine. Et il travaille également avec Godard, Louis Malle, Bernardo, Bertolucci. Ouais. Voilà, des grands noms.
Le gars se pose là.
Au cours de sa carrière de plus de 40 ans, il a composé la musique de plus de 350 œuvres pour le cinéma et la télévision.
C'est
énorme. Le mec prolifique. Hein.
C'est le mec est très prolifique. Ouais. Il a une carrière et il a un panel de possibilités en termes de musique. C'est juste énorme.
Et installé aux États-Unis à partir de la fin des années 70, il a quand même participé à plusieurs productions hollywoodiennes, dont Platoon, Salvador et Steel Magnolia.
Ça va.
Donc le mec, il s'est fait un gros nom en France, il peut se permettre d'aller aux États-Unis.
Le gars est insatiable.
Bonjour, c'est moi.
Ouais, le gars est insatiable. Et justement, on écoute, mon cher Yves, et c'est là que c'est intéressant, Beethoven.
Ouais.
La sonate pour piano numéro 8 qui a été surnommée pathétique.
Ouais, bah, c'est un peu comme mes blagues.
Sans transition aucune. On n'est pas dans ce jeu. Sans transition aucune. Pathétique, alors c'est pas par Beethoven, faut pas déconner non plus, il se assassine pas la tête en faisant ce genre de choses, mais c'est un autre musicien qui l'a surnommé comme ça. Mais moi ça m'intéresse parce que je trouve que quand Blier utilise Beethoven et le morceau pathétique, c'est jamais pour faire joli, c'est souvent pour ajouter une couche de gravité à une situation totalement déjà invraisemblable. Voilà. Et justement, dans la série totalement invraisemblable Lunaire, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des vacances d'un certain monsieur Hulot.
Allez, on va faire les achats chez Tati. Non, c'est une connerie ce que je viens de dire. Allez.
Thank you.
vacances de Monsieur Hulot, film français réalisé justement par Jacques Tati, sorti en 53. Ouais. Jacques Tati, réalisateur, acteur, scénariste et mime français à l'époque, considéré comme l'un des grands maîtres de la comédie visuelle au cinéma. Son style repose sur peu de dialogues, beaucoup de gags visuels et une attention minutieuse au décor et au son, ainsi qu'une satire de la société de consommation et de la technologie.
Ouais.
Parmi les films les plus célèbres, mon chéri, figure...
On a quand même Jour de fête en 49, donc Les vacances de Monsieur Hulot en 53,
oui.
Mon oncle en 58, qui a été récompensé par les Oscars du meilleur film étranger, quand même. Playtime en 67, souvent considéré comme son chef-d'œuvre, et Trafic en 71. 71, une très bonne année.
Oui, on est... Titre sur titre ce soir, décidément, c'est
Tati,
la fin de saison.
Il a quand même profondément influencé la comédie donc moderne, avec un humour visuel qui a notamment inspiré des artistes comme Rowan Atkinson et son personnage de Mr. Bean.
Voilà, alors, je vous fais un petit synopsis vite fait. Alors que les congés payés permettent à un tiers des Français de partir en vacances, les vacanciers montent dans les autocars et les trains à vapeur bondés, alors que... les plus aisés gagnent le bord de mer en voiture. Lui, Monsieur Hulot, part au volant d'un cycle car Samson, mon cher Yves. Voilà, encore un truc qu'on soigne à ce mur en vallon, j'imagine. Pétaradant, chargé de deux valises et d'une épuisette. Ça pose le personnage. Monsieur Hulot arrive donc en vacances. Il ne fait rien, mais il le fait avec un talent extraordinaire. Chaque déplacement provoque un accident. Chaque activité tourne à la catastrophe.
Mais non.
Si. Chaque tentative de sociabilisation produit un chaos discret. Petit joueur, celui-là. Tellement petit joueur. Les vacanciers vivent leur vie. Hulot traverse leur quotidien comme une perturbation météorologique élégante. J'aime cet homme.
C'est beau.
J'aime
comme
cet homme, on dirait moi. Le film observe la société française d'après-guerre, ses rituels, ses habitudes, sans jamais juger, uniquement en regardant avec une précision d'horloger suisse.
C'est vrai que ça, c'est tout le tag de Tati à ce niveau-là.
Oui, et justement, le son a été particulièrement travaillé comme un instrument comique et on l'entend. Et on l'entend tout à fait. Le personnage du lot deviendra totalement iconique alors qu'on passe à autre chose, mon cher Yves.
Mais on va dire ça, c'est pour accompagner le concept
on
du
est,
film.
On est tout à fait en été, ma biche.
Mais on va pas vous en parler parce c'est un peu trop.
On l'a déjà plus ou moins fait et si on le fait, on le fera complètement sur les 6.
On fera peut-être justement une série sur les 6 des gendarmes à Saint-Tropez. Mais on s'est dit, allez, on va le mettre un petit peu en fond sonore après Monsieur Hulot de Jacques Tati.
Parce que Monsieur Hulot, il a pas une très très grande. Il n'y a pas beaucoup de musique. C'est très...
C'est pour ça que justement, on n'a pas pu en passer beaucoup. Et en même temps, je regarde, on est en train de s'approcher de la fin de l'émission. Donc
et de la fin de saison, mon cher Yves. Est-ce qu'on revient ? Mais oui, on revient. On reviendra.
Sans
vous
problème.
En faites pas. On va reviendre. De toute façon, on n'a pas tout fini à chaque coup. On n'en finit jamais.
Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour se quitter ? On en a d'autres qui...
Alors moi, j'ai un parasol, un jeu de boules. J'allais dire une paire, mais non. Non, c'est une triplette. Il y en a une qui n'est pas à moi.
Et c'est pas les triplettes de Belleville.
Elle est très bonne aussi. C'est titre sur titre, mon chéri. Ce soir, ça va être la folie demain.
On ne pourra pas non plus tout vous passer, mais Il y a quand même une troupe de théâtre qui nous a accompagnés plusieurs fois au cinéma.
Oui. Et j'ai trouvé un petit mix très sympa. Un petit mix très sympa de tous les dialogues les plus sympas, justement. Mais du début de cette troupe, quand ils jouaient Les Bronzés. Sur une musique de La Soupe aux Choux aussi. C'est DJ Kana qui nous a fait ça. C'est très rigolo, c'est très rythmé. Ça envoie du bois. Et on est parti, mon cher Yves.
Ça a commencé tranquillement derrière nous. On pourra pas tout diffuser parce que l'heure de fin d'émission sera juste avant. C'est pas grave. On va vous laisser en compagnie des Bronzés.
Des vacances.
Profitez bien de vos vacances. On se retrouve à la rentrée. Merci Jérôme.
Salut Yves, merci à tous. Merci à nos auditeurs. Merci à Teddy qui est en train de faire des trucs étranges derrière Yves. Mais ne le voit pas.
Heureusement qu'il n'y a pas la caméra pour... on n'était pas sur Facebook.
Une espèce de regret,
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. Mais vous réécoutez cette émission ce dimanche à 15h. Et pour ceux qui ont du mal à dormir la nuit, mercredi à 3h.
Oui, donc on peut faire les deux. Allez.
On va essayer de bronzer la nuit, c'est ça.
On se dit à la prochaine.
Allez, à bientôt.
Allez, salut à tous. Bonnes vacances. Ciao.
dîner avec lui ce soir?
Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous.
Avec qui?
Avec la patronne de l'hôtel. Ah, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu m'aides pas là?
Non, pas là, non.
C'est 20 jours de plus qu'hier sur le même parcours, c'est bien le même parcours là-dedans.
Tu n'arrives pas, Jérôme? Je crois que t'as accroché une porte.
J'ai pas accroché, j'ai ripé! Parle pas de ce que tu connais pas! Mais quelle icône celle-là!
Ah bon?
Jean-Claude,
ça fait toujours que là, c'est déjà sur un coup.
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change.
Oui, c'est intéressant.
Ouais, va être bien parce que ça va fermer les télésièges.
Extension, flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension.
Bon. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête.
Calme pas, monsieur. Ça fait la 30e fois que vous me dites. Planter du bâton ne marche pas du tout. Je sais bien ça dans la tête. Et je ne comprenais pas, monsieur.
Oui, je suis au courant, je sais ça, ça te prend pas, je ne sais.
Fouzi, facile à dire, Fouzi.
Laissez-moi m'entraper, Pierre. Allô, les trois amitiés, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël, monsieur.
Joyeux Noël, je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël.
C'est cela, oui.
Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans deux mois.
C'est cela, oui.
Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme.
Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe la collaboratrice.
Joyeux Noël, enfin, si je puis m'exprimer ainsi.
Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Thérèse.
Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce.
Ça
ne
nous intéresse pas! Arrêtez ça!
Qu'est-ce
que c'est que la crème chichi?
Eh bien, la crème chichi, c'est une fine couche de sarrasin, saisie dessus le sou et parsemée de rousquette. C'est délicieux.
Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Oh! Mais qu'est-ce que c'est ce plan? Pas rêver!
Qu'est-ce qui se passe?
Oh, c'est encore une crêpe au sucre.
Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus.
De l'anémie, il ne mange pas.
Il fait de l'anémie? Mais bouffez-le, moi je ne sais pas ce que vous dire, mais bouffez-le! Allez hop, prends le bâton, tu leur pousses la